Évangile selon Luc, chapitre 7. Guérison de l'esclave d'un centurion, versets 1 à 10.
Lecture de la parole. Or, quand il eut achevé tous ses discours, le peuple l'entendant, il entra dans Capernaum. Et l'esclave d'un certain centurion, à qui il était fort cher, était malade, et s'en allait mourir. Et ayant ouï parler de Jésus, il envoya vers lui des anciens des Juifs, le priant de venir sauver son esclave. Et étant venus à Jésus, ils le priaient instamment, disant, « Il est digne que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et nous a lui-même bâti la synagogue. » Et Jésus alla avec eux. Et déjà, comme il n'était plus guère loin de la maison, le centurion envoya des amis vers lui disant, « Seigneur, ne te donne pas de fatigue, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est pourquoi je ne me suis pas cru digne moi-même non plus d'aller vers toi. Mais dis une parole, et mon serviteur sera guéri. Car moi aussi, je suis un homme placé sous l'autorité d'autrui, ayant sous moi des soldats, et je dis à l'un « va » et il va, et à un autre « vient » et il vient, et à mon esclave « fais cela » et il le fait. Et Jésus, ayant entendu ces choses, l'admira. Et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit « je vous dis que je n'ai pas trouvé même en Israël une si grande foi. » Et ceux qui avaient été envoyés s'en étant retournés à la maison, trouvèrent bien portant l'esclave malade.
Lecture de l'étude. Tous ces discours achevés, Jésus entra dans Capernaum où habitait un centurion dont l'esclave était malade. Ayant entendu parler de Jésus, le centurion envoya auprès de lui des anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son esclave qu'il aimait fort. Les messagers dirent à Jésus, « Il est digne que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et nous a lui-même bâti la synagogue. » Jésus partit avec eux. Comme ils approchaient de la maison, le centurion envoya de ses amis au-devant de lui pour lui dire, « Seigneur, ne te donne pas de fatigue, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est pourquoi je ne me suis pas cru digne moi-même non plus d'aller vers toi. Mais dis une parole, et mon serviteur sera guéri. Car moi aussi je suis un homme placé sous l'autorité d'autrui, ayant sous moi des soldats. Et je dis à l'un « va » et il va, et à un autre « vient » et il vient, et à mon esclave « fais cela » et il le fait, versets 6 à 8. La conduite de ce centurion, officier romain, donc étranger au peuple d'Israël, est de toute beauté. Elle nous révèle d'abord un gentil qui croyait au Dieu d'Israël. Il le montrait en s'intéressant aux Juifs, placés sous la domination romaine à cause de leurs infidélités à Dieu. Malgré cela, il les aimait et les avait favorisés dans l'exercice de leur religion en leur élevant une synagogue. Nous voyons ensuite chez lui l'humilité, un des traits caractéristiques de celui qui aime Dieu et le craint. Il prend la position d'un gentil indigne des faveurs de Dieu, et il reconnaît, dans les anciens de ce peuple asservi, des personnes qui peuvent mieux s'approcher de Jésus que lui-même. Il se juge indigne de l'avoir sous son toit, et l'on peut remarquer que ce n'est pas lui qui met en relief ses libéralités à l'égard des Juifs. Au-dessus de tout, il reconnaît en Jésus celui qui possède la toute-puissance et toute l'autorité en même temps que la bonté. Il n'a qu'à dire un mot pour accomplir ce qu'il veut. L'ayant entendu, Jésus l'admira, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit « Je vous dis que je n'ai pas trouvé, même en Israël, une si grande foi » verset 9. Le Seigneur ressentait douloureusement dans son cœur le mépris dont il était l'objet de la part de son peuple qu'il ne voyait en lui que le fils de Joseph. Quelle joie pour lui de voir la foi d'un gentil qui dépassait de beaucoup celle qu'il avait rencontrée chez les Juifs et savait reconnaître la puissance de la grâce venue de la part de Dieu pour tous les hommes. Aussi la réponse ne se fit-elle pas attendre. Lorsque les envoyés revinrent à la maison, ils trouvèrent l'esclave bien portant. Cette guérison est un exemple de la libre grâce venue en Jésus à l'intention de tous les hommes, caractère précieux de l'Évangile selon Luc. À cette grâce, nous aussi nous devons notre salut. Résurrection du fils de la veuve de Naïm. Versets 11 à 17.
Lecture de la parole. Et le jour suivant, il arriva que Jésus allait à une ville appelée Naïm, et plusieurs de ses disciples et une grande foule allaient avec lui. Et comme il approchait de la porte de la ville, voici, on portait dehors un mort, fils unique de sa mère, et elle était veuve, et une foule considérable de la ville était avec elle. Et le Seigneur, la voyant, fut ému de compassion envers elle et lui dit, « Ne pleure pas !» Et s'approchant, il toucha la bière, et ceux qui la portaient s'arrêtèrent. Et il dit, « Jeune homme, je te dis, lève-toi !» Et le mort se leva sur son séant et commença à parler, et il le donna à sa mère. Et ils furent tous saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète a été suscité parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Et le bruit de ce fait se répandit à son sujet dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour.
Lecture de l'étude. Si Jésus préservait de la mort l'esclave d'un gentil, il ressuscitait aussi le fils d'une veuve, de même que dans l'avenir, il tirera le peuple juif de l'état de mort dans lequel il se trouve maintenant. Suivi de ses disciples et d'une grande foule, Jésus allait à la ville de Naïm. Devant la porte, il rencontra une autre foule considérable qui suivait un cercueil. On portait au sépulcre le fils unique d'une veuve. Quel contraste entre ces deux cortèges, l'un ayant à sa tête le prince de la vie et l'autre la mort, cette mort impitoyable qui frappe sans se préoccuper des douleurs qu'elle cause, sans épargner une veuve n'ayant qu'un fils. La foule considérable qui formait le convoi funèbre montrait sa grande sympathie pour la pauvre mère, mais sa désolation en présence d'un mal irréparable n'y changeait rien. La sympathie même prouve notre impuissance. Mais Dieu connaissait la situation de sa créature sous tous les maux que le péché a engendrés. Lui seul peut apporter le remède là où nous ne savons que gémir, en constatant notre impuissance. Jésus, la résurrection et la vie, ressentait tous les maux qu'endurait l'homme. Il rencontre le mort. Ému de compassion envers la mère veuve, il lui dit « Ne pleure pas !» Qui, ici-bas, aurait le droit de parler de la sorte à une veuve frappée d'un nouveau deuil ? Personne. Car nul ne peut renouer les liens que la mort a rompus. Mais Jésus, l'homme divin, unissait à sa parfaite sympathie la puissance qui allait rappeler à la vie le fils que la mort avait saisi. S'approchant, il toucha la bière, et ceux qui la portaient s'arrêtèrent, et il dit, « Jeune homme, je te dis, lève-toi !» Et le mort se leva sur son séant, et commença à parler, et il le donna à sa mère, verset 14. En même temps que sa puissance, quel amour, quelle tendresse Jésus manifeste en cette circonstance. Il rend à la mère son fils vivant. S'il lui disait « Ne pleure pas », c'est qu'il savait ce qu'il allait faire. Le cœur de Jésus est le même aujourd'hui envers tant de parents et d'enfants dans le deuil. Il dit à chacun « Ne pleure pas » comme ceux qui n'ont pas d'espérance. « Je vais venir vous réunir tous » non pas comme Anaïn pour continuer une vie de peines et de fatigues ici-bas, mais pour être toujours avec moi dans la maison du Père, là où il n'y aura ni deuil, ni cri, ni larmes. » En parlant de ce moment, l'apôtre Paul dit « Consolez-vous donc l'un l'autre par ces paroles. » 1 Thessaloniciens 4, verset 18. En voyant ce miracle, tous, saisis de crainte, glorifiaient Dieu en disant « Un grand prophète a été suscité parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Et le bruit de ce fait se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour, versets 16 à 17. Hélas, malgré cela, et malgré tout le bien qu'il fit encore, Jésus fut mis à mort, non parce qu'il était un prophète, mais parce qu'il était le Fils de Dieu qui avait apporté aux hommes la lumière sur leur état de péché, ce qu'ils ne pouvaient supporter. Tel est le cœur naturel, malgré tout l'amour que Dieu lui témoigne. Épreuve de Jean le Baptiseur, versets 18 à 23.
Lecture de la parole. Et les disciples de Jean lui rapportèrent toutes ces choses. Et ayant appelé deux de ses disciples, Jean les envoya vers Jésus, disant, « Es-tu celui qui vient, ou devons-nous en attendre un autre ?» Et les hommes, étant venus à lui, dirent, « Jean le baptiseur nous a envoyés auprès de toi, disant, « Es-tu celui qui vient, ou devons-nous en attendre un autre ?» En cette heure-là, il guérit plusieurs personnes de maladies et de fléaux et de mauvais esprits, et il donna la vue à plusieurs aveugles. Et Jésus, répondant, leur dit, « Allez, et rapportez à Jean les choses que vous avez vues et entendues, que les aveugles recouvrent la vue, que les boiteux marchent, que les lépreux sont rendus nets, que les sourds entendent, que les morts ressuscitent, et que l'évangile est annoncé aux pauvres. Et bienheureux est quiconque n'aura pas été scandalisé en moi. »
Lecture de l'étude. Jean avait été mis en prison, et Jésus, auquel il avait rendu témoignage, qu'il avait annoncé au peuple, comme le Messie promis, ne paraissait pas s'occuper de lui. Il le laissait en captivité, au lieu de le délivrer par cette puissance dont Jean entendait parler. On comprend à quelle épreuve ce saint homme de Dieu était soumis. Apprenant par ses disciples les choses merveilleuses faites par Jésus, Jean envoie deux de ses disciples lui dire « Es-tu celui qui vient, ou devons-nous en attendre un autre ?» En présence des envoyés de Jean, Jésus guérit plusieurs personnes atteintes de maladies, de fléaux, de mauvais esprits, rendit la vue à des aveugles, et dit aux disciples de Jean, « Allez, et rapportez à Jean les choses que vous avez vues et entendues, que les aveugles recouvrent la vue, que les boiteux marchent, que les lépreux sont rendus nets, que les sourds entendent, que les morts ressuscitent, et que l'évangile est annoncé aux pauvres, versets 21 à 22. » Le prophète avait ainsi toutes les preuves de la présence de Christ ici-bas, dont il était le précurseur. Mais ce qu'il n'avait pas compris, c'est que le Christ, avant de prendre son vent en sa main pour nettoyer son air, c'est-à-dire avant d'exécuter les jugements sur le peuple apostat pour établir son règne, devait être rejeté et introduire un état de choses nouveau et céleste comme résultat de sa mort. Les actes de puissance que Jésus accomplissait prouvaient au peuple, comme à Jean, qu'il était le Messie promis. Mais ceux qui croyaient en lui devaient prendre leur part de son rejet et de ses conséquences. Jésus ajoute pour la conscience de Jean, « Bienheureuse est quiconque n'aura pas été scandalisé en moi », verset 23, c'est-à-dire « Bienheureux celui que l'humiliation de Christ et son abaissement ne scandaliseront pas et dont la foi en lui se maintiendra malgré tout. » Témoignage de Jésus à Jean, versets 24 à 35.
Lecture de la parole. Et lorsque les messagers de Jean s'en furent allés, il se mit à dire de Jean aux foules, « Qu'êtes-vous allés voir au désert ? un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu de vêtements précieux? Voici ceux qui sont vêtus magnifiquement et qui vivent dans les délices sont dans les palais des rois. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est ici celui dont il est écrit « Voici, j'envoie mon messager devant ta face, lequel préparera ton chemin devant toi. » Car je vous dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a aucun prophète plus grand que Jean le baptiseur, mais le moindre dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tout le peuple qui entendait cela, et les publicains, justifiaient Dieu, ayant été baptisés du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi rejetaient contre eux-mêmes le conseil de Dieu, n'ayant pas été baptisés par lui. À qui donc comparerai-je les hommes de cette génération, et à qui ressemblent-ils? Ils sont semblables à des petits enfants qui sont assis au marché et qui crient les uns aux autres et disent « Nous vous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes. Et vous n'avez pas pleuré, car Jean le baptiseur est venu, ne mangeant pas de pain, et ne buvant pas de vin, et vous dites, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites, voici un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des pécheurs. Et la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. »
Lecture de l'étude. Si Jésus adresse à Jean des paroles qui devaient atteindre sa conscience et fortifier sa foi, il se tourne vers les foules et lui rend témoignage, l'appelant le plus grand des prophètes. Et il montre la culpabilité de cette génération que les exhortations de Jean ne touchaient pas plus que la grâce de Jésus. Jésus demande aux foules ce qu'elles avaient été voir au désert où se tenait Jean le baptiseur. Ce n'était pas un grand de ce monde. Ceux-là habitent les palais des rois. C'était un prophète, leur dit-il. Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est ici celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face, lequel préparera ton chemin devant toi. » Malachie 3, verset 1. Car je vous dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a aucun prophète plus grand que Jean le baptiseur. Mais le moindre dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Versets 24 à 28. Jean était le plus grand des prophètes parce que seul il eut le privilège de voir ce Messie annoncé et attendu par beaucoup. Cependant, il faisait encore partie de l'ordre de choses légales qui avait précédé, tandis que Jésus rejeté introduisait un nouvel état de choses appelé royaume de Dieu, caractérisé par de telles bénédictions, célestes et éternelles, que le plus petit dans ce royaume serait plus grand que le plus grand prophète du siècle de la loi. Tous les croyants possèdent cette part privilégiée, du moment qu'ils se trouvent sous l'économie de la grâce. Le peuple qui entendait ce que Jésus disait de Jean, ainsi que les publicains et les pécheurs, donnaient gloire à Dieu, car ils avaient reçu le baptême de Jean. Mais les docteurs de la loi et les pharisiens, qui n'avaient pas été baptisés, rejetaient contre eux-mêmes le conseil de Dieu, qui s'accomplissait par l'envoi de Jean et de Jésus. Ceux qui se prétendaient sages et intelligents rejetaient les bénédictions décrétées par Dieu pour le peuple, car elles se tourneraient contre eux en jugement. Ceux qui avaient écouté Jean le baptiseur justifiaient Dieu qui accomplissait ses promesses. Jésus compare la génération incrédule qui ne le reçoit pas plus qu'elle n'a reçu Jean à des petits enfants sur la place du marché qui reprochent à leurs compagnons de n'avoir pas dansé lorsqu'ils jouaient de la flûte, ni pleuré lorsqu'ils chantaient des complaintes. Comme ces enfants qui ne répondaient pas aux désirs de leurs camarades, les Juifs restèrent indifférents aux appels de Jean qui les invitait à fuir le jugement par la repentance et le baptême. L'austérité de ce prophète et son genre de prédication fait comparer son ministère aux complaintes restées sans effet. celui de Jésus qui vint ensuite, déployant une grâce sans pareille, au milieu du peuple, ne le touche pas davantage. C'est le son de la flûte auquel fort peu ont répondu, sinon pour accuser Jésus d'être un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des pécheurs. Cependant, la sagesse avait des enfants, ceux qui avaient écouté la voix de Dieu et ne se confiaient pas en leurs propres pensées. C'est le grand enseignement des proverbes, surtout dans les 9 premiers chapitres. Christ personnifie la sagesse. C'est lui qui fait entendre sa voix dans ce livre, comme dans l'Évangile. Comparez Proverbes 9, versets 1 à 6, et Matthieu, chapitre 22, versets 1 à 14.
La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Elle a tué ses bêtes. Elle a victionné son vin. Elle a aussi dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes. Elle crie sur les sommets des hauteurs de la ville. Qui est simple, qu'il se retire ici. À celui qui est dépourvu de sens, elle dit, « Venez, mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai mixionné. Laissez la sottise et vivez, et marchez dans la voie de l'intelligence. »
Matthieu 22, versets 1 à 14.
Et Jésus, répondant, leur parla encore en parabole, disant, « Le royaume des cieux a été fait semblable à un roi qui fit des noces pour son fils, et envoya ses esclaves pour convier ceux qui étaient invités aux noces. Et ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres esclaves, disant, « Dites aux conviés, voici, j'ai apprêté mon dîner, mes taureaux et mes bêtes grasses sont tués, et tout est prêt. Venez aux noces. » Mais eux, n'en ayant pas tenu compte, s'en allèrent, l'un à son champ, et un autre à son trafic, et les autres, s'étant saisis de ses esclaves, les outragèrent et les tuèrent. Et le roi, l'ayant entendu, en fut irrité, et, ayant envoyé ses troupes, il fit périr ces meurtriers-là et brûla leur ville. Alors il dit à ses esclaves, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours des chemins, et autant de gens que vous trouverez, conviez-les aux noces. » Et ces esclaves-là étant sortis, s'en allèrent par les chemins, et assemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, tant mauvais que bons. Et la salle des noces fut remplie de gens qui étaient à table. Et le roi, étant entré pour voir ceux qui étaient à table, aperçut là un homme qui n'était pas vêtu d'une robe de noces. Et il lui dit, « Ami, comment es-tu entré ici sans avoir une robe de noces ?» Et il eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-le pieds et mains, emportez-le et jetez-le dans les ténèbres de dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. »
En l'écoutant, on trouve la vie, Proverbe 8, verset 35.
« Car celui qui m'a trouvé a trouvé la vie et acquiert faveur de la part de l'Éternel. »
Une pécheresse chez Simon, versets 36 à 50.
Lecture de la parole. Et un des pharisiens le pria de manger avec lui. Et entrant dans la maison du pharisien, il se mit à table. Et voici, une femme dans la ville qui était une pécheresse, et qui savait qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Et se tenant derrière à ses pieds, et pleurant, elle se mit à les arroser de ses larmes, et elle les essuyait avec les cheveux de sa tête, et couvrait ses pieds de baisers, et les oignait avec le parfum. Et le pharisien qui l'avait convié, voyant cela, dit en lui-même, « Celui-ci, s'il était prophète, saurait qui et quelle est cette femme qui le touche, car c'est une pécheresse. » Et Jésus, répondant, lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Et il dit, « Maître, dis-le. » Un créancier avait deux débiteurs, l'un lui devait 500 deniers, et l'autre 50. Et comme il n'avait pas de quoi payer, il quitta la dette à l'un et à l'autre. « Dis donc, lequel des deux l'aimera le plus ?» Et Simon, répondant, dit, « J'estime que c'est celui à qui il a été quitté davantage. » et il lui dit « Tu as jugé justement ». Et se tournant vers la femme, il dit à Simon « Vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds, mais elle a arrosé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, n'a pas cessé de couvrir mes pieds de baisers. Tu n'as pas oint ma tête d'huile, mais elle a oint mes pieds avec un parfum. C'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais à celui à qui il est peu pardonné, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Et ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui même pardonne les péchés? Et il dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va-t'en en paix.
Lecture de l'étude. Un pharisien invita Jésus à manger chez lui. Pendant qu'il était à table, une femme dans la ville, qui était une pécheresse, et qui savait qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums, et se tenant derrière à ses pieds et pleurant, elle se mit à les arroser de ses larmes, et elle les essuyait avec les cheveux de sa tête, et couvrait ses pieds de baisers, et les oignait avec le parfum, verset 37-38. Voyant cela, le pharisien se dit, « Celui-ci, s'il était prophète, saurait qui et quelle est cette femme qui le touche, car c'est une pécheresse. » Verset 39. L'un et l'autre de ces personnages appréciaient Jésus d'une manière bien différente. La femme avait vu en lui la grâce dont elle avait besoin. Elle avait la certitude qu'il ne la repousserait pas. Cette grâce attirait son cœur de façon si exclusive et puissante qu'elle ne se préoccupait nullement du pharisien. Celui-ci, au contraire, ne voyait rien en Jésus qui l'attira. Il pouvait dire, comme ceux auxquels Ésaïe fait allusion, « Il n'y a point d'apparence en lui pour nous le faire désirer » Ésaïe 53, verset 2. Simon était un propre juste, un homme satisfait de lui-même. Il n'avait aucun besoin de pardon. Celui qui était plus beau que les fils des hommes, sur les lèvres duquel la grâce était répandue, n'attirait pas son cœur. Psaume 45, verset 2.
Tu es plus beau que les fils des hommes, la grâce est répandue sur tes lèvres, c'est pourquoi Dieu t'a béni à toujours.
Pour lui, Jésus n'était pas même un prophète. Jésus lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Un créancier avait deux débiteurs. L'un lui devait 500 deniers et l'autre 50. Et comme il n'avait pas de quoi payer, il quitta la dette à l'un et à l'autre. Dis donc lequel des deux l'aimera le plus? Et Simon répondant dit, j'estime que c'est celui à qui il a été quitté davantage. Et il lui dit, tu as jugé justement, verset 40 à 43. Jésus montre ensuite à Simon que lui, qui ne croyait avoir aucune dette envers Dieu, manifestée en Christ ici-bas, ne l'avait pas même reçue avec les égards en usage en Orient. Tandis que cette femme, qui avait le cœur rempli d'amour pour Jésus, lui témoignait l'honneur et le respect qui avaient manqué chez Simon. Celui-ci ne lui avait pas donné d'eau pour ses pieds, mais elle les avait arrosés de ses larmes et les essuyait avec ses cheveux. Il ne lui avait point donné de baiser. Elle n'avait cessé de couvrir ses pieds de baisers. Il n'avait pas oint sa tête d'huile, mais elle avait oint ses pieds avec un parfum. C'est pourquoi, dit Jésus, ses nombreux péchés sont pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais à celui à qui il est peu pardonné, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés, verset 44-48. Jésus ne veut pas dire que l'amour est méritoire, mais que cette femme, ayant vu en lui la grâce dont elle avait besoin, l'aimait en conséquence, avant d'avoir entendu de la bouche du Sauveur qu'elle avait reçu le pardon, car l'amour pour Dieu ne peut naître qu'à la vue de cet amour. Simon n'avait aucune raison pour aimer Jésus, il ne voyait pas en lui un Sauveur, parce qu'il n'en avait pas besoin. On voit par cette femme que la connaissance du Dieu qui fait grâce, révélée en Christ, produit la conviction de péché, en même temps que la certitude qu'il y a en lui le pardon pour les péchés que cette connaissance découvre. La grâce attire, c'est pourquoi les pécheurs venaient à Jésus au lieu de s'enfuir. Nous l'avons vu chez Pierre au chapitre 5. Les personnes endormies au sujet de leurs péchés, les propres justes, les indifférents, les incrédules, fuient le Sauveur, mais non les pécheurs convaincus et repentants. Et ceux-ci sont assurés de l'accueil qui leur est réservé. En entendant Jésus dire à cette femme « Tes péchés sont pardonnés », ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes « Qui est celui-ci qui même pardonne les péchés ?» Et il dit à la femme « Ta foi t'a sauvée, va-t'en en paix. » La foi que cette femme avait en Jésus, cette foi qui l'a poussée vers lui, qui avait discerné en lui un sauveur, constituait pour elle un moyen de salut, comme le lui apprend Jésus. Cela reste vrai tant que durera le jour de la grâce, qui commençait lorsque Jésus était sur la terre et qui touche à son terme aujourd'hui. Que tous ceux qui n'ont pas encore entendu la voix de Jésus leur dire « Tes péchés sont pardonnés » n'attendent pas à demain pour venir à lui. Aujourd'hui, il les attend pour pouvoir le leur dire.